C'est encourageant d'entendre des témoignages ce matin, on en entendra encore cet après-midi, puisque vous l'avez compris, c'est en lien avec notre Assemblée Générale et les personnes qui ont donc demandé à devenir membres. Donc rendez-vous tout à l'heure pour la suite des témoignages. J'aimerais commencer ce matin en racontant une petite histoire. Alors je précise qu'elle est fictive et qu'elle ne dit absolument rien de ma théologie sur les anges. Deux anges voyageurs, déguisés en pauvres gens, arrêtent leur marche et sont amenés à passer la nuit dans une famille, dans la maison d'une famille très riche. Cette famille est rude et refuse de leur donner une hospitalité digne de ce nom. Ils se voient offrir pour seul logis une petite place au sous-sol, très froid. Et après s'être installé sur le plancher dur et humide, l'un des anges, le plus âgé, décide de s'adonner à des travaux. Il répare les murs du sous-sol. Le plus jeune a l'air étonné et l'ange aîné se contente de lui dire cette petite phrase « Tu sais, les choses ne sont pas toujours telles que tu les vois. » La nuit suivante, nos deux anges voyageurs trouvent auberge cette fois-ci dans la maison d'une famille pauvre qui les accueille, eux, d'une façon très hospitalière. Le fermier et sa femme partagent la nourriture, leur laissent leur lit pour qu'ils puissent passer une bonne nuit reposante. Et quand le jour se lève, les deux anges trouvent le fermier et la femme atterrés. Ils viennent de perdre la seule vache du cheptel. Une fois parti de la maison, le jeune ange s'adresse avec fureur à son aîné. « Vraiment, je ne comprends pas. La première famille avait tout et elle n'a rien partagé et tu les as aidés. Cette deuxième famille n'avait rien, elle a tout partagé, mais tu as laissé mourir leur unique vache. Les choses ne sont pas toujours comme elles paraissent être, lui répéta l'ange le plus âgé. Quand nous avons dormi dans la cave de la famille riche, j'ai remarqué par le trou qu'il y avait un trésor caché derrière les murs, c'est pour ça que je me suis mis à réparer ces murs. Cette famille étant tellement obsédée par les biens qu'elle n'est pas capable de partager sa bonne fortune. Mais l'autre nuit, quand nous avons dormi dans le lit du fermier, l'ange de la mort s'est présenté. Il est venu pour demander la femme du fermier. C'est alors que je l'ai détourné pour qu'il ne puisse s'en prendre qu'à leur vache. Les choses ne sont pas toujours comme elles paraissent être à première vue. Et vous allez voir que c'est un principe qui va guider notre lecture ce matin. Nous sommes toujours dans le livre des Actes, à la redécouverte de la mission que Dieu a confiée à son Église, avec un mot d'ordre en vue, « Ne crains pas, mais parle, et ne te tais point. » Et depuis la semaine dernière, nous méditons ce que cela signifie que de faire de l'Évangile sa priorité. Nous avons commencé à voir que cela pouvait parfois être surprenant. Vous vous rappelez peut-être de cet épisode questionnant de la séparation entre Paul et Barnabas en acte 15. Séparation qui apparaîtrait de prime abord comme une défaite de l'Évangile, mais qui, nous l'avons un peu entreaperçu en le méditant la semaine dernière, approfondit en fait ce que cela veut dire que de faire de l'Évangile sa priorité. Être ferme et sans compromis sur ce qui est essentiel, non négociable, les sujets qui touchent à la puissance du salut, mais aussi souple et reconnaissant pour les différentes approches que nous pouvons avoir dans sa mise en œuvre. Avec Dieu, les choses ne sont pas toujours comme nous penserions qu'elles devraient être. C'était déjà le cas en acte 15, et vous allez voir qu'en acte 16, ce principe va être développé de manière encore plus étonnante. Et je demande à Laurine de bien vouloir nous faire la lecture ce matin. La lecture est un petit peu longue. Acte 16, les versets 1 à 34. Et le texte sera projeté.
C'est beau ? Non, c'est celui-là. C'est bon ? Allez, bon. Paul se rendit ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y trouva un disciple nommé Timothée. Sa mère était une croyante d'origine juive et son père était grec. Les frères de Lystre et d'Iconium disaient beaucoup de bien de lui. Paul désira le prendre avec lui. Il l'emmena donc et le fait circoncire par égard pour les juifs qui habitaient dans ces régions et qui savaient tous que son père était grec. Dans toutes les villes où il passait, il communiquait aux frères les décisions prises par les apôtres et les responsables de l'Église à Jérusalem, en leur demandant de s'y conformer. Et les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie. Mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et il le suppliait. « Viens en Macédoine et secours-nous. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y annoncer l'Évangile. Nous nous sommes embarqués à Troas et nous avons mis directement le cap sur l'île de Samothrace. Le lendemain, nous avons atteint Néapolis. De là, nous sommes allés jusqu'à la colonie romaine de Philippe, ville du premier district de Macédoine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes étaient rassemblées là. Nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, une non-juive qui adorait Dieu. Elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Puis elle nous invita en disant « Puisque vous avez jugé que j'ai foi au Seigneur, venez loger chez moi. » Et, avec insistance, elle nous pressa d'accepter. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête. « Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. » Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » À l'instant même, il la quitta. Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leurs espoirs de gain s'étaient évanouis, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. Ces gens-là sont des juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous qui sommes romains n'avons ni le droit d'accepter ni de pratiquer. La foule se leva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces « Arrête ! Ne te fais pas de mal ! Nous sommes tous là !» Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et Silas, puis il les fit sortir et leur demanda « « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?»« Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé. Il en est de même pour toi et tous les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu, à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Voilà.
Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Il n'est pas obligé. Acte 16, un de mes chapitres préférés dans la Bible, si ce n'est mon chapitre préféré. Quelle scène incroyable de voir Paul et Silas en train de chanter des louanges dans une prison à Philippe. Si ce n'est pas l'expression de la priorité de l'évangile dans une vie, on se dit, mais comment ont-ils fait pour réussir à faire cela ? Alors, pour en avoir une idée, je vous propose de remonter le fil au début du chapitre, parce qu'il s'est passé tout un tas de choses qui les ont conduits jusque-là. Et d'abord, repensons à ce concile de Jérusalem, dont nous avons parlé la dernière fois, parce qu'il a vraiment débouché sur des situations assez étonnantes. Un concile qui prône l'unité, et un chapitre qui se clôt par une division entre Paul et Barnabas. Un concile qui prône qu'il ne faut pas circoncire les nouveaux convertis. Et que fait Paul en arrivant à Lystre ? La première chose qu'il fait, il circoncit Timothée. Alors, si vous y comprenez quelque chose, vous... Avec Dieu, les choses ne sont pas toujours comme elles paraissent être. En quoi une décision qui pourrait paraître mauvaise en acte 15 peut-elle être bonne en acte 16 ? Pourquoi, quand les Juifs jettent le trouble à Antioche en disant qu'il faut circoncire les nouveaux convertis, ils s'opposent à l'Évangile ? Et pourquoi Paul, lui, peut prendre la décision de circoncire Timothée quand il arrive à Lystre ? Parce qu'en acte 15, c'est la définition du salut qui est en jeu, alors qu'en acte 16, c'est l'annonce du salut qui est en jeu. En acte 15, avec la décision du concile de Jérusalem, l'Évangile est sauvegardé. La circoncision ne fera partie d'aucune confession de foi des églises qui seront créées. La bataille théologique est gagnée, mais il reste une bataille à mener. Annoncer cet évangile-là. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de Timothée un bon témoignage. La présence de Timothée pouvait s'avérer très utile pour Paul. Problème. Paul commençait systématiquement par annoncer l'évangile à qui ? Aux Juifs ou dans les synagogues. Si Timothée n'est pas circoncis, il ne sera d'aucune utilité. Voilà donc pourquoi Paul fait circoncire Timothée. À cause, nous dit le texte, des Juifs qui étaient présents dans ces lieux-là. On est un peu dans la même situation finalement qu'un missionnaire qui renoncerait à boire de l'alcool parce que l'endroit où il va... Eh bien, ça ne se fait pas. On n'est pas crédible quand on le fait. Il aurait le droit de le faire, mais il renonce à le faire pour pouvoir privilégier l'annonce de l'Évangile. On a là, en fait, une mise en action, une mise en œuvre d'un fameux slogan cher à l'apôtre Paul. Se faire tout à tous. Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Dans mes relations avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme l'un d'entre eux, afin de les gagner. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut, par tous les moyens. L'enchaînement d'acte 15 et acte 16 sur la place de la circoncision est juste génial. Paul nous montre qu'il n'est pas dans le combat personnel théologique que l'on rencontre parfois dans nos milieux. On tient tellement à notre idée, à notre position théologique, que cela devient une question d'honneur personnel, plus que de se demander si cela favorise la transmission de l'Évangile. Paul n'était pas dans cette disposition. Il fait circoncire Timothée pour une raison simple. Rien ne doit être un frein pour l'annonce de l'Évangile. D'une certaine manière, pour Paul, se faire tout à tous avait la priorité à la fois sur ses préférences personnelles, et ce malgré les troubles vécus à Antioche, il aurait pu devenir allergique à la circoncision. Il ne l'est pas devenu. Mais aussi sur ce que l'on pourrait appeler une orthodoxie jusque boutiste. Il accepte en effet, je pense, que certains s'interrogent sur sa cohérence de faire circoncire Timothée. Parce qu'en même temps qu'il fait circoncire Timothée, qu'est-ce qu'il fait ? Il encourage les églises à suivre les prescriptions des apôtres et des responsables de Jérusalem qui disaient justement quoi ? De ne pas circoncire les nouveaux convertis. Ça a dû quand même jeter un certain nombre de questions, hein ? Voilà un premier principe à méditer pour celui qui veut faire de l'Évangile sa priorité. Est-ce que mes réactions, mes positionnements contribuent au fait de rendre l'Évangile vivant et non pas un dogme auquel il faut adhérer? C'est vrai pour les points théologiques, c'est vrai pour les nœuds relationnels. Voilà une question importante à se poser quand nous sommes dans des zones grises. Est-ce que par mon attitude, je suis en train de marquebouter, de faire obstacle à la transmission de l'Évangile, ou est-ce que je mets en priorité le fait que l'Évangile est appelé à passer à travers moi? Il n'est pas simple de répondre à ces questions. On doit reconnaître que beaucoup de critères émotionnels, personnels, vont influencer notre réponse. La réponse à cette question ne sera pas la même d'un chrétien à un autre. Mais cette question, me semble-t-il, est fondamentale pour nous repérer. Privilégier la transmission de l'Évangile plutôt que nos préférences personnelles. En quelque sorte, ce n'est pas nous qui possédons l'Évangile, c'est l'Évangile qui nous possède. Alors on pourrait se dire, ok, nous tenons notre principe. Et on pourrait en conclure que Dieu va toujours œuvrer dans le sens de celui qui fait passer la transmission de l'Évangile en premier. Sauf que dans ce texte, il se passe une deuxième chose tout à fait bizarre que je n'aurais jamais imaginé trouver dans la Bible. Lisez encore avec moi les versets 6 et 7, où il nous est dit que le Saint-Esprit les empêchèrent d'annoncer la parole, que l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Le Saint-Esprit qui empêche d'annoncer la parole de Dieu. Étonnant, hein ? La campagne d'évangélisation en Asie tourne au fiasco. Alors, on vient de dire que celui qui fait passer la transmission de l'Évangile en premier fait de la priorité, enfin voilà, est vraiment dans cette idée que l'Évangile est sa priorité. Et nous lisons maintenant que le Saint-Esprit empêche d'annoncer l'Évangile. Comment on s'y retrouve ? Pourquoi le Saint-Esprit et pas le diable ? Imaginez ! Vous mettez tout en œuvre, vous faites tous vos efforts pour communiquer avec passion le salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ, et vous découvrez que c'est Dieu qui met des bâtons dans les roues. Imaginez, nous voilà enfin partis pour ce voyage missionnaire dont nous parlons depuis plusieurs semaines. On l'a organisé, on a cherché des financements pour faire cela, on traverse toute l'Europe, et là, il ne se passe rien. C'est comme si on était venu pour rien. Que d'argent gâché, que de temps perdu, on se dirait. Mais ce n'est pas ce que nous dit Luc dans ce passage. Luc nous dit, les choses ne sont pas toujours comme nous penserions qu'elles devraient être. Et c'est le Saint-Esprit qui a conduit les événements ainsi. Alors, comment il en est arrivé à cette conclusion, on se dit, hein ? Alors, on peut déjà dire que dans la Bible, le diable n'explique jamais rien. Le diable ne fait que ce que Dieu le lui laisse faire. Si les choses se sont déroulées ainsi, eh bien en effet, c'est bien parce que Dieu l'a voulu. Et puis il y a bien sûr le songe de Paul. C'est pas tous les jours qu'il vous apparaît en rêve un Macédonien en tenue folklorique vous appelant au secours pour venir à lui. Mais nous savons aussi que tous nos rêves ne sont pas forcément inspirés par le Saint-Esprit. Aussi, ce qui me marque une nouvelle fois dans ce passage, eh bien, c'est l'effet prise de recul. Le recul entre le déroulé des événements et le moment où Luc va écrire ce qui s'est passé. Parce que quand Luc prend la plume, il a l'occasion de voir ce qui s'est passé. Ensuite, de ne pas s'apitoyer sur l'échec de la campagne d'évangélisation, mais de voir là où cela a conduit l'équipe missionnaire. Jusqu'en Europe. Là où, encore une fois, les apôtres probablement ne seraient pas allés d'eux-mêmes. Ce qui semblait être la campagne d'évangélisation la plus désastreuse jamais organisée par Paul a finalement été une des étapes les plus décisives dans la propagation de l'Évangile, le passage de l'Orient à l'Occident. Une étape essentielle pour que l'Évangile se défasse de ses habits juifs et qu'il soit le message qu'il est réellement, un message pour tous les peuples. précisément au moment où l'Église de Jérusalem a statué que la circoncision ne fait pas partie de la confession de foi, Dieu se débrouille pour que l'Évangile passe de peuples bien marqués par la tradition juive à des peuples où il y a beaucoup plus de païens et où cette question va se poser puissance 10. Voilà pourquoi Luc ne pouvait discerner que la main du Seigneur derrière tout cela. Avec Dieu, les choses ne sont pas toujours comme elles paraissent être. Et c'est précisément cela qui nous permet de discerner que c'est Dieu qui est à l'œuvre, n'est-ce pas ? Voilà donc un deuxième principe pour celui qui veut faire de l'Évangile sa priorité. Ne pas avoir d'idée trop précise de ce que Dieu devrait faire. Aussi bien dans les situations compliquées que l'on subit, que dans les situations où on veut se lever pour servir Dieu. Dieu ne fait pas toujours ce que nous pensons qu'il devrait faire. Est-ce que nous allons en nourrir de la colère, de l'apitoiement ? Ou est-ce que nous sommes prêts à avancer en ayant la conviction que Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi ? Et qu'un jour nous pourrons nous aussi affirmer, le Saint-Esprit a empêché de faire quelque chose qui me semblait bien, pour faire quelque chose qu'il savait encore mieux. Bon, alors, Luc, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Il est clair pour Luc que l'arrivée de Paul et de son équipe à Philippe, ça n'est pas la volonté des hommes, c'est celle de Dieu. Alors on se dit, ça y est, ça va commencer ! Enfin, une campagne d'évangélisation digne de ce nom. Mais une fois encore, les choses ne vont pas se passer comme on l'aurait imaginé. Quelle étrange campagne d'évangélisation à Philippe. Il y a d'abord Lydie, la première convertie. Un sacré bout de femme, apparemment. Elle accepte le Seigneur et aussitôt toute sa famille la suit. Elle se convertit et sa maison devient le premier centre missionnaire en Europe. Et comment tout cela a commencé ? Par un imprévu. Paul n'a pas pu faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Que fait Paul d'habitude ? Il se rend à la synagogue. Mais apparemment, à Philippe, il n'y a pas de synagogue. Probablement qu'il n'y avait pas le nombre suffisant de juifs pour démarrer une synagogue. C'est pourquoi Paul se rend dans un lieu de prière à l'extérieur de la ville et commence à annoncer la bonne nouvelle aux femmes qui s'y trouvent. L'église de Philippe a démarré par un petit déjeuner de femmes, comme nous aimons tant en organiser dans notre église. Sauf que dans la société patriarcale du premier siècle de notre ère, cette histoire est un véritable ovni. Personne, à l'époque, n'aurait misé sur la conversion d'une femme pour démarrer une église. Il n'y a que Dieu pour conduire un truc comme cela. Et ensuite, une servante avec un esprit de divination qui prédisait l'avenir et faisait gagner de l'argent à ses maîtres. Elle se met à suivre Paul en criant sur tous les toits « Voici les serviteurs du Très-Haut ! Ils vous annoncent le salut !» Alors ça peut être très utile pour attirer les foules, mais ça peut vite devenir un peu pesant et gênant pour expliquer l'Évangile. Et au bout de quelques jours, Paul, fatigué de cette pesante compagnie, finit par la guérir. Pratique, hein ? Bon, j'aimerais pouvoir faire pareil parfois. On ne sait pas si cette femme a rejoint l'église de Philippe. Elle a simplement arrêté de prédire l'avenir. Mais c'est probablement un signe de sa nouvelle naissance. Et quoi qu'il en soit, l'histoire peu commune de cette conversion ou de cette guérison a assurément marqué l'église naissante à Philippe. Et puis enfin, il y a ce gardien de prison. Lui aussi, il n'était pas vraiment un candidat idéal pour le salut. Vous imaginez un gros molosse, tatouage partout, à qui vous devez enseigner « Si on te tape sur la joue droite, tu tends la joue gauche !» Et c'est un peu pour voir. Mais pour Dieu, c'est pas un problème. Il envoie un tremblement de terre. Radical, celui qui certainement devait se moquer quelques instants avant de ces fous en train de chanter des louanges dans leur cachot, est désormais comme un agneau. Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Quelle histoire, cette implantation d'église à Philippe. Et quand on voit, 15 ans après, l'église de Philippe dans le Nouveau Testament, dans la première lettre, dans la lettre que Paul envoie à Philippe, on se rend compte qu'elle a tenu bon. Et qu'elle est même certainement, parmi toutes les églises que Paul a fondées, l'église qui avait le mieux compris sa place dans la mission, se voyant comme partenaire de l'évangile de Paul. Quelle histoire incroyable! Nos repères volent en éclats. Un endroit où Paul n'avait aucune intention d'aller, des gens sur lesquels aucun implanteur d'église n'aurait misé. Mais avec Dieu, les choses ne sont pas toujours comme nous pensons qu'elles devraient être. Cela implique forcément un renversement de nos échelles de valeurs, un renversement de nos réflexions, que nous considérons souvent sages, mais que Dieu renverse quand elle contrecarre ses plans. Est-ce étonnant de la part de celui qui a fondé l'Église depuis sa mort sur la croix? Alors, que retenir de ce que nous avons médité ce matin? J'ai relevé trois principes pour faire de l'Évangile notre priorité. Est-ce qu'à cause d'une préférence personnelle, je suis en train de faire barrage à la transmission de l'Évangile dans ma vie? Est-ce que je suis prêt à faire confiance que Dieu sait mieux que moi, surtout quand il n'est pas en train de faire ce que j'attends de lui? Est-ce que je suis prêt à mettre de côté les cases dans lesquelles Dieu rentrerait si bien pour me laisser surprendre par lui? Des questions qui peuvent être utiles en jour d'Assemblée Générale, n'est-ce pas? Des questions qui ne sont pas infaillibles, mais qui peuvent s'avérer très utiles aussi quand on constate que les choses ne sont pas toujours comme nous penserions qu'elles devraient être. Car alors, même ce qui nous semble contradictoire, même ce qui nous semble frustrant, même ce qui nous semble décevant, inconfortable, en un mot faible, devient une force pour celui qui met la priorité de l'Évangile dans sa vie. Avec Dieu, les choses ne sont pas toujours comme nous penserions qu'elles devraient être. Mais en Dieu, si je fais de l'Évangile ma priorité, alors je serai peut-être aussi capable, en prison, à Philippe, de tourner mes yeux vers Dieu et de chanter mes louanges. Je prie. Oui, Seigneur, tu es un Dieu surprenant. Tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, que ta parole entre dans nos cœurs, que ta parole fasse effet. Nous savons que nous sommes tout à fait capables d'entendre, mais que nous avons souvent plus de mal à accepter cette parole et la laisser changer nos cœurs. Et nous te prions, Seigneur, que ta parole puisse être vraiment celle qui agisse aujourd'hui dans nos vies. En ton nom, Seigneur. Amen. Oui.